Chers amis de Radio Salve Regina, bonjour. Lucille avec vous pour une autre émission de Storia et Storie. Alors, nous continuons l'histoire du malheureux roi de Rome, l'Aiglon, qu'on a appelé l'Aiglon puisqu'il est le fils de l'aigle. Et nous avons vu sa naissance assez difficile pour qu'on s'inquiète de lui et de sa mère. Et nous avons donc vu sa naissance et nous avons vu qu'il avait été posé à terre puisque tout le monde s'occupait de Marie-Louise qui était quand même en assez mauvais état après la naissance de l'enfant. Parce que Napoléon avait souhaité un enfant à tout prix, mais il avait dit « sauver la mère » parce qu'on croyait à un moment donné que si on sauvait l'enfant, on ne pouvait pas sauver la mère. Enfin, je ne suis pas spécialiste, mais voilà. Je répète ce que j'ai toujours entendu, lu du moins dans des livres d'une certaine époque. Alors là, Napoléon avait quand même dit « sauver la mère » parce qu'il s'était dit que la mère lui ferait d'autres enfants. Il ne pensait pas que Waterloo viendrait si vite et que Marie-Louise retournerait chez son père. Donc il s'est dit « la mère me fera d'autres enfants » et si la mère mourait, c'était beaucoup plus difficile de trouver encore une princesse parce que c'est pas évident d'épouser tous les jours la fille de l'empereur d'Autriche. Voilà. Donc Napoléon avait dit sauver la mère et Aiglon était par terre et c'est Corvisart, le médecin de Napoléon, le médecin bien connu du Premier Empire d'ailleurs, qui l'a frictionné, lavé, etc. et qui l'a sauvé. Donc à Vienne, on apprend la naissance du roi de Rome avec joie. Voyez-vous, on peut penser qu'il s'en fiche, le grand-père qui a donné sa fille à celui qu'on appelait l'ogre corse, mais on l'apprend quand même avec joie. On l'apprend le 23 mars. Et elle, si vous voulez, c'est une nouvelle qui fait espérer la paix. Voilà. Et le père de l'empereur François, père de Marie-Louise, envoie à ses félicitations que le ciel conserve ce nouveau gage des liens qui nous unissent. Il n'en est pas de plus précieux ni de plus propre à cimenter à jamais les rapports les plus heureux qui existent entre nos deux États. Donc cet enfant est un gage de paix. En France aussi, on le considère comme un gage de paix puisque l'Autriche est l'ennemi héréditaire et il est le petit-fils de l'empereur d'Autriche. Donc pour tout le monde, c'est une naissance qui peut cimenter la paix, comme l'a dit l'empereur d'Autriche. Et Napoléon avait chargé donc le chambellan Nicolai et de remettre les lettres à son beau-père, la nouvelle de la naissance de l'enfant, et la deuxième lettre lui demande d'être le parrain de cet enfant. Et donc, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hélas, nous savons qu'il y a des nuages noirs, mais là, aujourd'hui, on ne parlera pas des nuages noirs. Alors, la cérémonie de baptême est fixée au 2 juin. Donc, il est né à la mi-mars et la cérémonie de baptême est fixée au 2 juin. Alors, évidemment, cette cérémonie sera aussi importante et aussi somptueuse que pour le malheureux petit roi Louis XVII, le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, dernier dauphin, puisqu'à l'époque, on disait le dauphin. Voilà, donc... nous savons que l'enfant est né le 22 mars et que dès le 23, avec le télégraphe optique en Autriche, on avait connu la naissance. Il y avait déjà un télégraphe optique qui, par signaux, c'était une sorte d'alphabet, par signaux pouvait transmettre de l'un à l'autre les nouvelles à l'autre bout de la France. Un peu comme les tours de garde chez nous en Corse permettaient de signaler la venue des barbaresques. Alors voilà, la cérémonie, je vais vous dire un petit peu, s'appuie, le cérémonial du moins, s'appuie toujours sur les précédents de l'Ancien Régime. notamment le baptême du premier dauphin de 1781. Je dis le premier dauphin parce que la reine Marie-Antoinette et Louis XVI avaient eu le malheur en 1789 de perdre un premier petit dauphin de 8 ans qui est mort de tuberculose osseuse comme son frère ensuite. Et la relation de la mort de cet enfant, excusez-moi, de cet enfant, et vous tire les larmes, vraiment. Parce qu'il pense déjà à l'autre monde, il pense à Dieu, et il dit des choses très très touchantes. Là, le deuxième dauphin, celui que nous avons connu et que nous appelons l'enfant du temple, va souffrir davantage, bien davantage. Et nous voyons, comme je vous l'ai dit dans la première émission sur l'aiglon, nous voyons à quel point les destins de ces deux petits cousins, évidemment, l'aiglon était choyé, c'était une cage dorée, hein, Sean Brown, on peut... Il y a pire comme cage, hein, bon, mais disons qu'ils ont eu des destins assez tristes, tous les deux, séparés de leur mère, de leur père, voilà. Et alors, Napoléon apporte quand même quelques innovations, dont la pluralité des parrains et marraines. Il suit avec attention l'ensemble des préparatifs. Le 13 avril 1811, donc, parce que nous sommes en 1811, près de la chute, il détaille à son ministre de l'Intérieur, le comte de Montalivet, donc là aussi noblesse ancien régime au service de Napoléon, parce qu'ils ont quand même reconnu le génie de Napoléon, le génie militaire, et puis ils étaient proches de Joséphine, qui les avait aidés à rentrer en France. Elle avait aidé beaucoup d'émigrés sont ceux qui ont quitté leur pays. L'immigré, c'est celui qui arrive dans un pays. Donc, on appelait les émigrés, c'était un crime terrible d'avoir quitté la France au moment de la Révolution, même si on avait perdu tous ses biens et si on risquait sa tête. Voilà, alors Joséphine, qui était très proche d'eux, puisqu'elle les avait connus bien avant la Révolution, les a aidés à rentrer en France, à récupérer pour la plupart leurs biens. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont ralliés au régime de Napoléon. Il lui écrit donc « J'ai fixé au 2 juin prochain le baptême du roi de Rome, qui sera célébré dans l'église métropolitaine de Notre-Dame de Paris, à laquelle... moi et l'impératrice, pas l'impératrice et moi, hein, c'est moi et l'impératrice, nous nous rendrons solennellement pour assister et rendre grâce à Dieu pour sa naissance. Après la cérémonie de Notre-Dame, j'irai dîner à l'hôtel de ville de ma bonne ville de Paris et je vais retirer le feu d'artifice. Le même jour, il sera chanté un Te Deum dans tout l'Empire. Je désire que les fêtes et réjouissances aient lieu toutes en même temps. » Alors, elle ne dit pas « nous irons dîner, hein, j'irai dîner ». Ça, c'est Napoléon. Au fond, Napoléon, c'est un Marie-Corps. Ça, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc, nous savons que c'est quand même quelque chose qui a coûté très, très cher parce qu'il fallait que ce soit célébré un peu partout en France. Donc, les maires, puisque depuis la Révolution, il y avait des maires, les maires ont été prévenus. Voilà, chez nous en Corse aussi, on avait des maires, il n'y avait plus de podestat, les podestats génois, c'était terminé. Mais une fois terminée l'histoire de l'aiglon, je vous parlerai un peu des podestats et de l'administration génoise dans l'île de Corse, cette administration qui a laissé tellement de traces, et il ne faut pas oublier que c'est de Gênes que nous tenons les plantations de châtaigniers, d'oliviers, etc., et le bien-être économique de la Corse au XVIIIe et XIXe siècle. Bon, petite parenthèse. C'est donc le 9 juin, et pas le 2, qu'est célébré à Notre-Dame le baptême du roi de Rome. Se déroule le même jour dans tout l'Empire des cérémonies religieuses et civiles destinées à fêter l'événement. La cérémonie de Notre-Dame sorte de sacre renouvelé à l'intention de l'Empire européen, se devait d'être somptueuse. Son organisation a été confiée à l'architecte Fontaine, qui a utilisé tapis, tissus, lustres à profusion. Sur le parvis est installée une tente, et de son plafond se détachent plus de 2600 étoiles d'or, avec au centre la lettre N, entourée d'une colonne de laurier. L'ensemble est doté de tribunes de bois pour accueillir 7000 invités. Alors c'est plus tellement une... Excusez-moi, ça n'est plus tellement une sorte de parvis de toile, c'est quand même quelque chose de très très important, parce que pour les 7000 invités, hein, voilà, dans des tribunes en bois, et ça a été quelque chose d'absolument magnifique. Retenons le nom de Fontaine, parce que Percier et Fontaine ont été les architectes de l'Empire. Les architectes de l'Empire et les architectes des fêtes de l'Empire également, parce qu'il fallait créer des décors magnifiques pour les fêtes. Tout est prévu. Le trajet emprunté par le cortège, les ordres d'arrivée, les places données, les formules prononcées et bien entendu, la tenue de l'enfant. C'est un manteau impérial en drap d'argent doublé d'hermine. Dès midi, les cloches retentissent dans tout Paris pour inviter la population à se dresser le long du trajet. À 16 heures, les corps de l'État, les maires, les députés des bonnes villes sont invités à se rendre à Notre-Dame. Une heure plus tard, le corps diplomatique s'installe, suivi des cardinaux, des archevêques et des évêques. À 17 heures, nouvelle salve, annonçant le départ des Tuileries du cortège impérial. Le spectacle est saisissant. Il s'agit d'une débauche d'or, de broderie, de pierrerie. Marie-Louise apparaît vêtue d'une robe couverte de diamants, alors que Napoléon semble déguisé sous sa toque à plumes. Tout au long du parcours, Napoléon était beaucoup mieux en uniforme, mais là, il avait voulu faire mieux et sans doute, il n'était pas mieux du tout. Tout au long du parcours est disposée une aide-soldat qui n'a aucun mal à contenir la foule, très réservée. On est loin de l'enthousiasme du mois de mars à sa naissance. Et donc la foule est réservée, elle ne fait pas d'excès, elle ne se précipite pas, elle ne veut pas déborder les forces de l'ordre. Le cortège met près de 2 heures pour atteindre Notre-Dame. Après l'accueil sur le parvis, ce fameux parvis qui est fait pour recevoir 7000 personnes, par le cardinal Fesch, le roi de Rome, porté par sa gouvernante, fait son entrée. Il est entouré à droite du grand-duc de Wurtzbourg, représentant l'empereur d'Autriche, qui est son parrain, donc il est parrain par procuration, et à gauche, Madame Mère, qui est sa marraine. Notons que Joseph et Caroline, choisis comme deuxième parrain et deuxième marraine, sont absents. Joseph prétexte des questions de préséance avec le grand-duc et préfère rester dans le cortège. Caroline est restée à Naples pour raison de santé. En effet, tous les deux, attachés à la défense des intérêts de leurs monarchies respectives, sont en froid avec leur auguste frère. Ne s'agit-il pas là de nouvelles contrariétés pour Napoléon? C'est certain. Caroline sait que l'Empire est déjà fissuré. Elle se demande si elle va arriver à garder le trône de Naples, puisque si l'Autriche gagne, déjà Napoléon épouse une infante autrichienne. Donc si l'Autriche gagne, infante, c'était pour les Habsbourg d'Espagne. Donc si l'Autriche gagne, eh bien, ils rendront sûrement le trône à Marie-Caroline, tante de Marie-Louise, qui avait été chassée par Murat et sa femme, par les Français du moins. Donc, après quoi le cortège prend place dans le chœur. Oh, je vois une erreur sur le joli livre dont je m'inspire. Le cœur sans le H, quand même. Bon, enfin, s'il est vrai que le cœur, c'est quand même le cœur de l'Église. D'une Église. Marie-Louise et Napoléon sous leur dais. C'est le parrain et la marraine, c'est au parrain et à la marraine qu'ils reviennent présenter l'enfant à chacune des étapes du sacrement. Comme le prévoit le cérémonial, la comtesse de Montesquieu le remet ensuite à sa mère, chargée de le présenter à la foule, tandis que le héros d'armes lance « Vive le roi de Rome !» C'est à ce moment-là, sans crier gare, que Napoléon se saisit de son fils dans les bras de Marie-Louise et, après l'avoir embrassé à trois reprises, l'élève au-dessus de la foule, tandis que les acclamations retentissent « Vive l'empereur, vive l'impératrice, vive le roi de Rome !» Napoléon serre son fils. Est-ce qu'il a le pressentiment qu'il ne le verra plus et que toute sa vie, cet enfant si beau, va lui manquer? Et il était, je vous le dirai un peu plus tard, mais il était très, très, très doux et très affectueux avec cet enfant, parce que c'était quand même celui qu'il avait attendu depuis longtemps. Donc voilà, l'enfant regagne ses appartements, l'impératrice et l'empereur vont à l'hôtel de ville, où un grand souper, alors suivi d'un spectacle et d'un feu d'artifice, les attend. Vous voyez, j'ai un petit problème de vue là maintenant et je n'y distingue plus très bien les mots. Voilà. Donc, nous savons que 9000 lampions dans les arbres et 2500 lanternes éclairent cette fête féerique. Bon, c'est peut-être un petit peu l'apothéose avant la chute. La chute, nous n'en parlerons pas aujourd'hui parce que nous allons nous quitter et nous retrouver la semaine prochaine sur les ondes de notre chère radio Salve Regina.